Septième narration. Lettre écrite par M. Candy. Frizing Hall, mercredi 26 septembre 1849. Cher M. Franklin, vous ne devinerez que trop la triste nouvelle que j'ai à vous transmettre en trouvant si incluse votre lettre adressée à Ezra Jennings et que je vous renvoie sans qu'elle ait été ouverte. Il est mort dans mes bras mercredi dernier au lever du soleil. Ne m'accusez pas de vous avoir laissé ignorer que sa fin approchait. Il m'avait défendu expressément de vous en prévenir. « Je dois à M. Franklin Blake, me disait-il, quelques jours vraiment heureux. Ne l'affligeons pas, M. Candy. Ne troublons pas son bonheur. » Ses souffrances, jusqu'aux 6 dernières heures de sa vie, furent terribles à voir. Dans les intervalles de rémission, lorsque son esprit conservait sa netteté, je le conjurais de me nommer quelqu'un de ses parents auquel je pusse écrire. Il me demanda pardon de s'y refuser, même vis-à-vis de moi. Et il ajouta, sans amertume, qu'il désirait mourir oublié comme il avait vécu. Il maintint sa résolution jusqu'au bout. Il ne reste donc aucun espoir de découvrir quelque chose de plus sur cette vie absolument inconnue. La veille de sa mort, il m'indiqua où se trouvaient ses papiers et je les lui apportai. Il mit de côté une petite liasse de vieilles lettres. Son livre inachevé, son journal en plusieurs volumes s'y trouvait joint. Il ouvrit le volume de la présente année et en déchira les pages relatives au rapport que vous eûtes ensemble. « Donnez ceci, dit-il à M. Franklin Blake. Un jour peut-être, il prendra quelque intérêt à la lecture de ce qui est écrit ici. » Puis il joignit les mains et pria Dieu avec ferveur de vous bénir ainsi que tous ceux qui vous sont chers. Il me dit qu'il eût bien désiré vous revoir, mais presque aussitôt il changea d'avis. « Non, répondit-il, lorsque je lui offrais d'écrire, je ne veux pas être cause de chagrin pour lui. » Sur sa demande, je rassemblai tous ses papiers et je les réunis dans une même enveloppe, scellée de mon cachet. « Promettez-moi, fit-il, que vous mettrez ceci de vos propres mains dans mon cercueil, et que vous veillerez à ce que personne d'autre n'y touche après. » Je lui fis cette promesse, et elle a été religieusement tenue. Il m'adressa ensuite une autre prière, à laquelle il me fut bien dur de me rendre. « Que ma tombe soit oubliée, me dit-il. Donnez-moi votre parole d'honneur, que vous ne permettrez pas qu'aucun monument, que même le moindre signe commémoratif, s'élève sur ma fosse. Laissez-moi dormir ignoré et sans nom. Que le lieu de mon repos reste inconnu. » Lorsque je m'efforçais de faire fléchir sa résolution, il éprouva pour la première fois une agitation extraordinaire. Je ne pus supporter ce spectacle et je dus céder. Un petit tertre de gazon marque seul la place de sa tombe. Dans un court espace de temps, les pierres tumulaires s'élèveront tout autour et les gens qui viendront après nous regarderont et seront surpris en voyant cette tombe sans nom. Ainsi que je vous l'ai dit, ses souffrances cessèrent 6 heures avant sa mort. Il s'assoupit. Je crois qu'il rêvait. Une fois ou deux, un sourire passa sur ses lèvres, et un nom de femme, celui d'Ella, à ce qu'il me sembla, s'en échappa à plusieurs reprises. Quelques instants avant sa fin, il me demanda de le soulever sur son oreiller, afin de voir à travers la croisée le soleil se lever. Il était bien faible. Sa tête retomba sur mon épaule, et il murmura « Elle vient, elle vient ». Puis, s'adressant à moi, « Embrassez-moi ». Je baisai son front. Tout à coup, il leva la tête. Le soleil levant frappait sa figure. Une expression de repos vraiment angélique l'éclaira. Il s'écria à 3 reprises « Paix, paix, paix ». Sa tête s'affaissa de nouveau sur mon épaule, et cette pauvre vie si troublée s'éteignit. Il nous avait quittés. Cette nature est celle d'un homme de génie, bien que le monde ne l'ait point connu. Il supporta courageusement une dure existence, et avec le caractère le plus doux et le plus tendre que j'aie jamais rencontré. Sa perte me laisse bien solitaire. Je ne me suis jamais senti tout à fait remis depuis ma maladie. Et souvent je pense à abandonner ma profession. Peut-être qu'une absence pour suivre un traitement d'eau m'aidera à retrouver la santé perdue. Le bruit court que votre mariage avec Miss Verinda est fixé au mois prochain. Veuillez agréer ici mes sincères félicitations. Les feuilles du journal de notre pauvre ami vous attendent chez moi, cachetées, et votre nom écrit sur l'enveloppe. J'aurais craint de les confier à la poste. J'adresse ici tous mes vœux et l'expression de mon respect à Miss Verinda. Je demeure, mon cher Monsieur Blake, votre dévoué Thomas Candy. Huitième narration, fournie par Gabriel Betridge. Vous vous souvenez sans doute que je fus désigné pour être celui dont le récit ouvre ses pages, et je suis encore chargé de l'éclore ici. Que personne ne s'imagine que j'ai un mot à ajouter au sujet du diamant indien. J'ai le seul nom de ce maudit joyau en horreur. Par conséquent, veuillez vous adresser à tout autre que moi pour avoir telle nouvelle de la pierre de lune que vous pouvez désirer connaître. Mon but, en commençant ces lignes, est de parler d'un événement de famille que tout le monde a laissé de côté et que je ne puis supporter de voir aussi peu respectueusement passer sous silence. C'est au mariage de Miss Rachel et de M. Franklin Blake que je fais allusion. Cet intéressant événement eut lieu dans notre maison du Yorkshire le mardi 9 octobre 1849. Je me fis entièrement habillé de neuf pour l'occasion, et l'heureux couple alla passer la lune de miel en Écosse. Les fêtes de famille étaient devenues rares chez nous depuis la mort de ma pauvre maîtresse, et j'avouerai qu'en l'honneur de ce mariage, je pris vers la fin de la journée une petite goutte de trop. Si jamais vous avez eu la même faiblesse, vous me comprendrez. Dans le cas contraire, il est présumable que vous vous écrirez « Quel vieillard inconvenant! Pourquoi venir nous raconter cela ?» Vous allez en savoir la raison. Dieu vous garde. Vous avez aussi votre vice favori. Seulement le vôtre n'est pas le mien, et le mien n'est pas le vôtre. Voilà tout. Ayant donc pris cette malheureuse goutte de trop, j'eus recours aussitôt à mon remède infaillible, qui est, vous le savez, Robinson Crusoe. Je ne saurais préciser à quel endroit j'ouvris ce livre sans pareil, mais en revanche, je sais parfaitement à quel passage je m'arrêtais. C'était à la page 318, à une place où il était question du mariage de Robinson Crusoe, ainsi qu'il suit. C'est avec ces pensées que j'envisageais mon nouvel engagement et que je songeais que j'ai une femme. Remarquez que c'est ce qu'a M. Franklin. Qu'un enfant m'est né, remarquez encore que ce pourra être le cas de M. Franklin, et qu'alors ma femme... Ce que la femme de Robinson fit ou ne fit pas me fut bien indifférent, je ne m'en souciais pas. Je marquai au crayon le passage relatif à la femme et à l'enfant, et j'y mis un signet en papier. « Reste en paix, me dis-je, jusqu'à ce que le mariage de M. Franklin et de Miss Rachel soit plus vieux de quelques mois, et alors nous verrons bien. » Il se passa plus de mois que je ne l'avais prévu, avant qu'une occasion se présentât de déranger la marque du livre. Ce ne fut qu'au mois de novembre actuel, 1850, que M. Franklin entra dans ma chambre de la meilleure humeur du monde et me dit « Betridge, j'ai une nouvelle à vous apprendre. D'ici à peu de mois, il y aura un événement intéressant dans la maison. » « Un événement de famille, monsieur ? » demandai-je. « Sans nul doute, » répondit M. Franklin. « Notre bonne maîtresse a-t-elle quelque chose à faire avec cette nouvelle, je vous prie, monsieur ?»« Elle a beaucoup à y faire, » dit M. Franklin, qui commençait à paraître un peu étonné. « Vous n'avez pas besoin de me dire un mot de plus, monsieur, » fis-je. « Dieu vous bénisse tous les deux. Je suis enchanté d'apprendre cela. » M. Franklin me dévisagea, muet de surprise. « Puis-je me permettre de vous demander d'où vous tenez cette nouvelle ?» me demanda-t-il. « Je n'en ai été informé, et cela sous le sceau du secret, qu'il y a 5 minutes. Quelle plus belle occasion pouvait-il y avoir de produire Robinson Crusoe et de lui lire le passage relatif à l'enfant, ce passage sur lequel je tombais le soir du mariage de M. Franklin. Je lus donc à haute voix ces mots providentiels en les accentuant comme ils méritaient d'être accentués. Puis je regardai M. Franklin sévèrement et bien en face. « Maintenant, monsieur, croyez-vous en Robinson Crusoe ?» demandai-je avec une solennité digne du sujet. « Betridge, » dit M. Franklin, non moins solennellement, « je suis enfin convaincu. » Il me prit les mains et je sentis que je l'avais converti. Je termine ici ma narration sur l'impression de cette mémorable circonstance. Que personne ne rit de l'unique anecdote que contient mon récit. Vos plaisanteries sur tout autre point sont les bienvenues. Mais lorsque je parle de Robinson Crusoe, par le Seigneur, je le fais sérieusement et je vous demande de le prendre de même. Cela dit, tout est dit. Mesdames et messieurs, je vous salue bien, mon histoire est finie.